je veux commencer, Paul, par un sujet où tu es peut-être le seul qui peut m'aider.
Vas-y.
Mes voisins ont une femme de ménage, ouais, qui est une femme d'une cinquantaine d'années.
Okay.
Et elle se balade dans la rue et je vois qu'elle a un t-shirt où il y a marqué OnlyFans. Et c'est ça un truc que tu vois souvent en Thaïlande. Des gens avec des t-shirts OnlyFans, des t-shirts Pornhub, les gens ont des stickers Pornhub sur leur voiture. Et tu comprends pas pourquoi ils l'ont mis. J'imagine qu'ils savent pas ce que c'est censé être. Mais comment est-ce que ce t-shirt est arrivé dans les mains de cette personne? Pourquoi est-ce que les gens dans les marchés vendent des t-shirts OnlyFans, Pornhub, etc.? Est-ce que tu as une opinion sur cette question?
Bon, c'est pas deux choses. Un, c'est tout ce qui est l'événement usé. Qu'en Europe, qu'on donne à Emmaüs, les trois quarts de ce que je sais, ils vont en fait en Afrique, ouais, ou aux Philippines. Donc, c'est pour ça que des fois, tu vois, aux Philippines, je vois souvent des gens avec genre maillot AS Saint-Etienne, toi.
Okay.
Ou maillot FC Valenciennes, des trucs un peu random. T'as ça, et aussi en Chine, ils font beaucoup de productions où ils pensent qu'un truc va fonctionner. C'est peut-être OnlyFans, et en fait, ouais, personne va acheter un truc OnlyFans. Ils ont dû voir, putain, OnlyFans, c'est en train de traîner de porc. Il y a un truc à faire. Donc après, ils ont produit 10 000 t-shirts, okay, personne n'en veut. Et ils sont là, ils les envoient sur le marché thaïlandais où ils savent pas ce qu'ils achètent. Donc c'est ce qui se passe en fait, c'est que tu peux avoir des pompes vraiment pas chères. Puis il y a ces deux canaux-là, quoi.
Bah, tu vois, je savais que tu allais pouvoir répondre à ce mystère.
Peut-être qu'à 50 ans, tu peux encore faire des trucs.
Pas, hein. Peut-être que derrière, il y avait le lien en fait. J'ai pas vu.
Okay. Peut-être qu'à reconversion professionnelle, hein, ça peut, ouais, mieux que ça ménage.
C'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, pour notre épisode 7, on relance le podcast. On a même essayé de faire comme si on était pro, de prendre un studio en présentiel. On a galéré, ça fait 45 minutes qu'on a un gars qui nous installe des caméras.
Il y a une chance sur deux que ça enregistre pas.
Une chance sur deux que ça enregistre pas. Donc si vous nous voyez, c'est qu'on a eu, bah, on est tombé sur les bons 50%, quoi. On a le business diabolique des pièges à touristes. Faut-il arrêter de bosser quand on est riche, tu vois? Retour d'expérience de 5 semaines sans travailler. Et finalement, il y a un truc fun où tu as mis un screenshot où j'ai l'impression que quelqu'un a fait x1000 sur le Dogecoin et j'ai envie de savoir si c'est toi. On verra à la fin. Donc, on commence par ce fameux business diabolique des pièges à touristes. Donc, tu me demandais tout à l'heure, j'étais à Paris pour quelques semaines et j'ai découvert des trucs incroyables. Le premier, c'est on va à Montmartre et ma femme me fait « Vas-y, il y a un photomaton à Montmartre qu'on peut faire, etc. » Certaines personnes adorent les photomatons, moi, je ne comprends pas trop l'intérêt, mais bon, on va au photomaton, etc. On arrive, devine quoi? Une queue de ouf. Il y a genre 20 personnes qui font la queue pour ce photomaton. Et je suis en mode, c'est quoi? C'est un photomaton japonais où tu peux mettre des emojis et tout? Non, c'est juste un photomaton qui est bien marketé sur Instagram. Et il n'y a pas de staff, c'est une machine automatique, il y a un loyer minuscule, c'est genre 3 mètres carrés, tu vois, bien positionné parce que c'est dans un endroit touristique. 5 € par personne et les gens font la queue pour ce photomaton. Du coup, j'ai été creuser ce qui se passe. Et en fait, c'est une boîte qui a un storytelling en mode on restaure des vieux photomatons vintage, machin.
Etc. Il avait une apparence particulière, ce photomaton, ou il était...
Il a une apparence un peu particulière. Il a une apparence un peu... Bah, ça ressemble en fait à un vieux photomaton de l'époque. Tu vois, c'est pas genre le photomaton que t'as au métro avec la carte d'identité nationale. Donc, c'est marketé pour les touristes, etc. Mais du coup, je me dis, business incroyable. Enfin, le turnover, tu vois, parce que les personnes prennent une photo, ça leur prend 3 minutes. Donc, t'as 20 personnes par heure à 5 €. Et le truc, il tourne en automatique, zéro staff, zéro rien. Ça, j'ai trouvé ça assez incroyable. Et ils en ont plusieurs. Ils les mettent dans différents endroits, tu vois, touristiques à Paris, etc. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est des photomatons. Bah, du coup, pendant tout le séjour, je me foutais de sa gueule en mode, bah, vas-y, un photomaton là. Dans tous les métros, il y en a, en fait. C'est juste que ce photomaton, il a un marketing d'influenceur. Et les gens trouvent ça cool de dire, ah, regarde ma photo et tout dans le photomaton que j'ai fait.
C'est aussi un truc de filles qu'elles aiment bien aussi, en fait. Se prendre en photo dans, ouais, le photomaton, la photo directement, s'amuser. C'est un truc aussi pour femmes, France.
Ouais, évidemment, au Japon, tu peux aller dans des trucs de photomaton où ils te donnent des déguisements. Enfin, tu comprends en fait pourquoi tu payes pour ce photomaton où ils te donnent des déguisements. Tu dis, ah, ok, c'est fun. Ou alors tu mets des emojis à la fin, tu vois, t'as un truc. Mais là, non, c'était juste un photomaton totalement normal et les gens faisaient la queue pour ce truc. Ça s'appelle Photo Automate.
Qu'est-ce qui t'empêcherait maintenant, tu penses, de lancer ton photo?
Bah, moi, j'étais en mode, vas-y, faut qu'on le fasse, etc. En fait, je pense que il faut comprendre le bon endroit où le mettre et il faut comprendre, je pense, le marketing d'influenceur. Et vraiment, du coup, une partie de ce que je vais t'expliquer ensuite, c'est vraiment, je me suis demandé, mais du coup, comment ça marche, ouais? Comment tous ces gens, ils savent que ce photomaton numéro 1, il est là? Et pourquoi
est-ce que tu penses que même s'ils n'étaient pas au courant, ça est juste l'apparence, fait qu'il y en a certains qui me seraient? Parce que aussi, tu vas voir genre tous les boulangers et tu leur dis, bah, je te paye 500 € par mois pour que tu me files 2 mètres carrés devant ta boutique, toi. Un truc comme ça, ça pourrait pas juste fonctionner sans même faire de promotion, quoi.
Il y a aussi des gens qui font un business où ils louent des photomatons pour les mariages et tout. C'est incroyable. Tu loues un photomaton pour un mariage. Alors, parce que sur les mariages, souvent, en fait, c'est genre, tu payes à la journée, tu vas plutôt payer à l'unité. Mais tu loues un photomaton à un mariage, les gens vont surkiffer. J'ai entendu parler d'un gars qui loue même des saunas pour des événements. Donc, il a construit des saunas qui sont sur des roulettes, en fait. Et pour les événements, tu peux avoir à ton mariage un sauna ou un truc comme ça. Je sais pas trop qui a un sauna à son mariage, mais apparemment, pour les événements, tu peux louer un sauna. Et il y a des éléments comme ça. Je pense que Photomaton, il y a un truc. Tu sais, tous les Américains qui disent les sweaty business, les machines à vendre des canettes et tout, ou les machines à laver, ils ont plein de trucs comme ça où ils disent vas-y, je vais récupérer mes pièces de la journée, vas-y, aujourd'hui, j'ai des pièces dans ma machine. Alors, en fait, je pense que Photomaton, c'est encore mieux parce qu'il y a une petite boucle de viralité, en fait. Et ça ne demande pas beaucoup d'avoir un petit twist sur ton Photomaton, un petit storytelling de ah, c'est vintage, un petit storytelling de. C'est ça. Tu vois, un décor
est-ce
unique.
Est-ce que c'était beaucoup des Asiates ou c'était un peu tout
C'était un peu un mix, parce que c'était clairement mix. Des touristes, parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Parisiens. Mais c'était un mix et ils n'étaient pas tous Asiates. Même si je pense que le marché asiatique sur les photomatons, c'est clair qu'il y a un gros truc. Et je pense qu'il y a des business à faire dessus, notamment si tu peux positionner. Donc là, eux, ils ont des photomatons, tu vois, genre dans différents musées, au Palais de Tokyo, je crois qu'ils en ont un, par exemple. Donc ils sont bien positionnés. Et après, il faut juste qu'il y ait une boucle de viralité où les gens postent. Et je pense que tu avais un petit truc où, quand les gens postent, soit ils ont un bonus, soit ils ont...
Tu n'as pas pu savoir ça, parce que ta copine, ta femme ne l'a pas fait.
On ne l'a pas fait, parce que je déteste faire la queue. Je ne fais pas la queue pour un photomaton. Alors, je dois avouer que ça aurait été mieux pour ma chronique dans le Trivia, et j'aurais pu le faire passer comme une expérience marketing. Mais non, parfois, dans ma vie...
Je vois très bien le truc, effectivement, tu prends la photo, ça te dit rentrer votre Instagram, boum, ça part. Je pense qu'il y a un truc comme ça, ouais.
Et voilà. Et ça, je pense qu'il y a un truc. Non, deuxième truc, est-ce que tu as entendu parler dans ta vie du croquis ? Le croquis, c'est une invention absolument abominable. C'est un croissant mixé avec un cookie.
Ok.
Le coup de génie, c'est le suivant. Les gens viennent à Paris, les touristes. Ils veulent manger les croissants, les machins, ils veulent bouffer la bouffe, etc. Au bout d'un moment, les croissants, ils en ont mangé. Une fois que tu as mangé 4 croissants, tu as mangé 4 croissants.
J'ai tous les croissants.
Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on t'invente des espèces de spécialités dont personne n'a entendu parler, qui du coup sont uniques, qui font des bonnes accroches sur Instagram. Pour moi, le croquis, c'est un produit qui a été pensé pour TikTok, en fait, pour Instagram. C'est un produit.
Et les touristes pensent que c'est une tradition française.
En fait, non, ils trouvent juste c'est un truc unique qu'ils ont vu. Ils disent, ah, où est-ce que je peux aller à un croquis parce que je peux l'avoir que à Paris. Et donc, du coup, pendant que t'es à Paris, tu as un peu cette urgence de tu veux avoir ton croquis. Donc là, elle a été chercher son croquis. Et
évidemment. Ça vient de toute ta femme, en fait. C'est la trompe. Touriste, pas accès, on se voit, il y a plein de
trucs. Mais à chaque fois, je lui pose des questions, je fais pourquoi ton cookie ? Où est-ce que tu en as entendu parler ? Ça t'a coûté combien ? Est-ce qu'ils t'ont obsédé sur quelque chose, etc. Beaucoup de recherches de marché. Et là, je pense qu'il y a plein de trucs qu'on peut faire. Donc, tu pourrais faire Kritza, tu vois, un croissant pizza. Tu pourrais faire un truc, j'ai une idée, un smoothie, tu vois, pas un smoothie, un smoothie. C'est un smoothie avec un café, tu vois, c'est un smoothie caféiné. Je pense qu'il y a un milliard de trucs que tu peux faire. En fait, tu combines juste deux trucs d'éléments, tu fais croire aux gens que c'est un vrai élément.
C'est quoi, croissant, c'est ça, c'est vrai ?
C'est quoi, croissant et gaufre ?
Je crois que c'est ça, ouais.
Ouais,
ouais, t'as déjà ça.
L'opportunité, c'est énorme. À mon avis, ce que tu fais, c'est que tu prends un tableau avec les deux trucs et tu les combines automatiquement. C'est comme quand tu cherches un nom de domaine et que tu combines automatiquement.
Ça te peut-être, tu peux lui demander, il pourrait faire les bons mots, tu vois.
Et ça marche sur Instagram. Les gens... Et après, tu es curieux, en fait. Tu dis, ouais, croissant, cookie, les deux sont bons et tout. Après, tu manges le croquis, fondamentalement, c'est assez bon, un croquis. Juste que ça n'a aucun lieu d'être, en fait. Tu pourrais juste bouffer un cookie, ça serait la même chose, c'est tout aussi sucré. Y a ça. Autre truc, on m'emmène dans un espèce de magasin qui vend de la mousse au chocolat.
Comme une fois, qui t'amène là-bas ? C'est confirmé, c'est toujours...
Oui, c'est toujours ma femme. Elle m'amène là-bas. Je sais pas, ouais, je sais où elle le trouve, évidemment. Je te le dirai après. Mousse au chocolat, petit carnet, 11 euros, mais c'est là. Il y a 6 mousses au chocolat différents. Il y a la mousse de Madagascar, il y a la mousse machin. Est-ce que tu veux un truc corsé, machin ? Ils te font croire que tu es en train de faire de l'œnologie, quoi, pour acheter ta mousse au chocolat. Nous, on paye 11 euros pour un petit truc. Mais après, on est arrivés les premiers, donc j'ai pas fait la queue. Mais après, dès que nous, on sort, il y a une queue de malade. Il y a genre 12 personnes qui font la queue et tout. Et je regarde les gens sortir. Et la plupart sortent pas avec un petit carnet, mais sortent avec un petit cornet, mais avec 3-4, tu vois. Donc, je suis sur un panier moyen de 30-40 euros avec un turnover, boutique minuscule où un seul client peut rentrer à la fois. Donc, du coup, à mon avis, c'est une strat.
Marge de 80%.
Un seul client à la fois, ce qui veut dire qu'il y a forcément la queue. Et littéralement, nous, on était dehors, il y a un petit banc devant, tu peux t'asseoir pour bouffer. Et les gens venaient nous demander, mais pourquoi ils font la queue ? C'est bon ce qu'il y a et tout, tu vois. Genre, il y a un marketing viral de les gens voient la queue et ils veulent voir ce qui se passe et poser des questions. Boutique minuscule, un employé, voilà, marge énorme, ils font des espèces de gros bacs de mousse au chocolat le matin, et puis après, ils te vendent le truc, et après, ils te le font payer au gramme et tout. Voilà. Et en gros, j'étais en train de calculer, à mon avis, ils sont à facile entre 800 et 1000 euros de chiffre d'affaires par heure sur cette petite boutique qui tourne et qui carbure. Donc, du coup, je lui ai demandé, où est-ce que tu en parlais de ces trucs-là, et notamment la mousse au chocolat. Donc, je découvre un compte Instagram d'une fille qui s'appelle Estelle, le compte s'appelle Elle vous guide. Donc, elle fait du contenu, c'est une Française qui fait du contenu en anglais à destination des touristes. Toutes les vidéos, c'est coucou, c'est Estelle. Aujourd'hui, je vous parle des 3 meilleures boulangeries de Paris avec les adresses, etc. Et elle a fait une vidéo du coup sur la mousse au chocolat, la meilleure mousse au chocolat de Paris. Tu vois, vidéo bien filmée, etc., bien chiadée, 1 million de vues. J'arrive pas à savoir si c'est sponsor, parce qu'elle n'est pas marquée hashtag sponsor sur ses contenus. Donc j'ai l'impression qu'elle n'est pas sponsor, ce qui serait absolument une folie parce qu'elle a drivé. Tu vois, imagine sur 1 million de vues, si une personne sur 1000 sont venues dans ce magasin,
ça me paraît très étonnant, ouais.
1000 clients, 34 CA qu'elle peut driver pour ce magasin, en partant du panier moyen de 30 euros par personne. Et du coup, je me pose vraiment la question de. Pour elle, ça peut être un business énorme en fait. Parce que tous ces contenus, en fait, c'est pas comme les influenceurs normaux où tu vas de contenu pour tes abonnés et tu entends, tu vas faire une sponsor. Tout son contenu, c'est te recommander des trucs. Et à chaque fois, elle te donne l'adresse, à quelle heure c'est ouvert, où est-ce que c'est. Voilà. Et donc, incroyable.
Je pense que le sponsor, c'est quoi? Tu penses c'est chance que c'est vraiment pas sponsor qu'aucun sponsor? Parce que souvent, elle fait quasiment pas de thunes, même avec 1 million de reach Instagram. Ouais, est-ce que tu fais quelque chose avec ça?
À mon avis, je pense qu'il doit y avoir des sponsors là-dedans. Mais peut-être parce qu'elle n'a pas commencé à très longtemps, tu vois.
Ouais, ça, peut-être que récemment, maintenant, elle va se faire contacter de tous les côtés.
Ou alors qu'elle ne les disclose pas, mais je pense que maintenant, tout le monde sait que tu es censé les disclose. Après, peut-être que ouais, parfois, elle fait des vidéos qui vont faire du reach et il y en a d'autres qui sont sponsors. Je vais pas regarder tous ses posts qui sont sponsors, mais en fait, je pense que ça, c'est une opportunité énorme pour une personne qui est un peu dans la démographique du je pense, féminin, etc., du tourisme. Où t'es en mode, t'es sur ta ville.
Tout ce qui est autour de Paris, ça fonctionne de fou. Ouais. Tout ce qui est French parisienne, c'est. Nous, on connaît la France, on connaît Paris, on comprend pas pourquoi. Mais effectivement, notamment le marché asiatique, c'est. Ouais. Ça me tient sur chaque fois.
Et là,
sur Instagram, c'est monstrueux. Ouais,
gros truc, je me dis, le trafic qu'elle peut driver pour ensuite les gens, ce qu'ils vont payer et tout, c'est incroyable. Un dernier truc que j'ai vu. Là, pour le coup, t'es au plus grand cœur du tourisme. Mais c'est marrant parce que Kim m'a dit que la manière dont c'est marketé dans les activités non touristiques à faire à Paris.
Okay.
Mais devine où cette activité est. Elle est devant la putain de Notre-Dame, tu vois. Ils ont mis ça. Et en gros, ils prennent ta photo.
C'est un petit coin secret.
Ouais, un petit coin secret, pas trop connu, tu vois. Seulement les insiders connaissent, tu vois. Faut vraiment être un Parisien depuis 15 ans pour connaître l'église de Notre-Dame. Ils prennent ta photo et après, ils impriment comme si c'était dans un vieux journal. Et il y a marqué « Célébrité vue à Paris », etc. C'est le truc le plus kitsch au monde. Mais ils ont un petit stand qui est devant Notre-Dame. Et apparemment, c'est marketé de ouf sur Instagram. Les gens kiffent et postent sur Instagram leur vieux journal avec leurs photos et tout. Quand je suis passé à côté, ça avait l'air d'être des Russes qui tenaient le truc. Voilà, c'était le dernier élément. Donc, finalement, moi, ça m'a vraiment fait penser à tous les trucs de pièges juristes que tu pourrais inventer. Et il y en a un auquel je crois à fond, et tous les gens à qui je l'ai pitché, qui étaient un peu des touristes asiates, etc., ils ont kiffé. Tu sais que les gens aiment bien aller dans des lieux pour prendre des photos. Souvent, ils vont dans un café juste parce qu'il y a une jolie photo à prendre. Et que souvent, le croquis, pourquoi tu l'achètes, c'est aussi pour pouvoir poster sur Instagram un truc marrant de tes vacances à Paris, qui va faire dire aux gens « Waouh, ça a l'air trop bon » et tout. Y a aussi des musées, par exemple, qui sont en fait juste des musées qui sont là pour prendre des photos intéressantes avec des perspectives, des machins. Je me demande s'il n'y aurait pas un truc où tu pourrais faire un lieu, un espèce de café ultra bien décoré, avec de la bouffe, mais juste en plastique. Et où les gens peuvent prendre des photos avec un festin énorme où ils ont commandé tout ce truc de bouffe, mais c'est en plastique comme dans les restos japonais.
C'est 100% second degré, du coup, tout le monde est au courant. C'est vraiment même la.
Ouais, mais en fait, photo. À mon avis, juste ce pitch, les gens diraient « Ah ouais, c'est trop drôle, tu peux prendre ta photo avec un gâteau géant, tu peux avoir un burger de trucs, parce que pour le commander en vrai, ça te coûterait une blinde, tu vois, mais là, tu peux payer 10 balles et faire toutes tes photos. » Et à mon avis, en termes de photo hop, tu pourrais marketer quelque chose et ça marcherait, il y aurait une clientèle pour ça. Idée de business chelou, mais je pense que sur les trucs de touristes à Paris, c'est incroyable.
Paris, il y a plein de choses à faire.
Voilà. C'était le business diabolique des pièges à touristes. J'espère que vous avez apprécié ce titre. Toi, tu as été aussi en France, tu as pris un long break.
Ouais.
Donc, du coup, tu as utilisé ta liberté, ton business pour faire autre chose. Et du coup, c'est quoi le takeaway de ça? Faut-il arrêter de bosser une fois qu'on a réussi?
J'ai pris 5 semaines de break et 3 semaines vraiment honnêtes. Et 2 semaines, c'est où tu commences un peu à regarder, ouais. T'envoies des petits messages à droite, à gauche, j'étais plus trop dedans. Il y a 3 semaines, vraiment, j'étais hors du business. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Ma dernière vraie coupure, ça remonte à 2019,
okay.
Où j'étais parti en putain de Mongolie. Et il n'y avait pas d'électricité par Internet en 2 semaines, donc là j'étais coincé.
Et tu n'avais pas eu ton compte Amazon qui était suspendu à
ce moment-là? Ah non, c'est un autre truc.
C'est un autre truc.
L'année dernière, je me suis dit, bon, on va faire une chose. Je vais partir
en
Népal.
Okay.
Je vais partir en Népal en moto. Il n'y aura pas Internet et là j'aurais pas accès et je serais tranquille. La veille du départ, boum, suspension Amazon, ce qui n'était pas arrivé depuis genre 3 ans. Et du coup, j'étais comme un connard en haut de la montagne avec mon téléphone, essayer de choper du H. Il n'y a même pas de 2G, il n'y a même pas de 3G. Il y a du H ou du E. Et donc, c'était. Donc, du coup, c'est pas les meilleurs. Ouais, c'était pas le meilleur trip pour moi.
Ouais.
Mais là, c'est bon, il s'est rien passé. Pendant 3 semaines, j'étais vraiment time off. Et du coup, c'est un peu un peu prendre du recul comme ça. Et aussi, un truc que j'ai fait depuis quelques mois, c'est que j'ai beaucoup des calls avec pas mal de mecs qui sont vraiment en business, et les plus gros business e-commerce, qui ont un peu moins compris un peu ce qu'ils font. Et donc, en combinant un peu les deux, j'ai retiré quelques leçons. Et la première, ce qui m'a... Je m'y attendais un peu, mais ça m'a aussi un peu surpris. C'est qu'honnêtement, au bout d'une semaine, j'avais envie de travailler, toi. Une semaine, tu sais, tu veux intellectuellement un peu te challenger, c'est ce dans quoi t'es bon, t'as envie d'être dans l'action. Et donc ça, c'est bien, je pense, de prendre un break pour se rendre compte qu'en fait, on aime ce qu'on fait. Et après, on peut prendre un break et se rendre compte qu'en fait, on
déteste.
Mais au moins, tu sais, après, t'es au courant, quoi. Mais du coup, c'était cool de voir ça. Un autre truc aussi, c'est quand tu prends du recul, tu te rends compte aussi tout ce qui te préoccupait, t'es pas si important que ça. Et il y a un bouquin, c'est sûr que tu as lu The Hard Things About Hard Things, qui dit qu'en gros, l'essentiel du boulot d'un CEO, mais je pense que ça s'applique après à tout le monde, c'est gérer sa propre psychologie. Parce que dans les CEO, on risque pas de vivre, toi, tous les problèmes sont résolvables. Excellent. Et donc, c'est vraiment une question de comment tu les interprètes. Et après, il y a aussi trois trucs que je me suis quand même pas apporté. Mais en fait, j'ai pas eu de révélation en mode, putain, j'ai découvert une nouvelle voie et on va la mettre dedans. Par contre, quand tu prends le recul, tu te rends compte un peu le truc qui était utilisé, qui était fait des limes. Et aussi, encore une fois, avec toutes ces discussions que j'ai eues. Le premier truc, c'est l'absence un peu de focus. C'est en gros, un business Amazon fondateur, ce qui fait que tu vas me grossir, c'est que tu lances plus de produits. Toi. C'est vraiment le truc, tu adores être la focus numéro un. Et moi, assez rapidement, j'essaie de déléguer ça. Et faire des trucs qui n'ont aucun sens. On s'est lancé sur Amazon Singapour. On a fait 14 ventes, ça ne servait à rien. Mais en fait, il y a un peu le côté où. Et à côté, j'ai vu d'autres vendeurs qui l'ont dépassé parce qu'eux, ils étaient focus. Bon, on sort 100 produits cette année, on sort 200 produits cette année. Et juste se concentrer
dessus. Une théorie. Vas-y. C'est qu'en fait, le fait de travailler trop, ça fait du mal à ton focus. Parce qu'en fait, comme tu as l'impression de toujours travailler, tu dis, OK, il faut que je fasse des nouveaux trucs, en fait, il faut que je me renouvelle, etc. Alors, en fait, si tu travaillais juste, je regarde des gens, tu vois, qui travaillent genre 3-4 heures par jour, qui ont un truc simple. Ouais, tu dis, bah, ils font un peu toujours la même chose, mais comme ils font d'autres choses dans leur vie, ils ont leur diversité autre part, tu vois. Et donc, ça les aide à se focus sur une stratégie très simple. Alors qu'en fait, si ton travail, c'est ta vie et tu veux travailler tous les jours, 8-10 heures par jour, etc., bah, tu dis, non, mais il faut que je fasse d'autres trucs, il faut que je me renouvelle, etc. Et tu n'es pas content de garder. Et je pense que ça, c'est un effet pervers où finalement, travailler plus te fait plus de mal que de bien.
Ouais, je suis d'accord. Éléments. Et encore une fois aussi, le fait de ne pas tellement t'ennuyer que tu es toujours né dans le guidon, ça t'empêche aussi un peu de voir ça aussi. Et notamment, ce que j'aurais dû faire, c'est si je me dis, putain, c'est depuis quelques années, c'est les 3 heures de chaque journée, je les consacrais à justement ces plus de produits, faire en ce qu'on aurait explosé.
Mais comment ça se fait que tu n'arrives pas vraiment à délayer le fait de lancer des produits?
C'est très technique. En fait, c'est à partir du compte de business parce que ça demande déjà un du jugement. Pour comprendre, en fait, je crois qu'on dit en français pattern recognition, pour connaître un peu les patterns. Et aussi, le gros problème, en fait, et c'est très très dur à déléguer, c'est qu'à chaque nouveau produit, on investit sur entre 10 et 100 000 euros, on va dire.
Ouais.
Donc, il faut que tu aies quelqu'un qui porte ses couilles et qui soit prêt justement à parier là-dessus, quoi, et à placer la commande. Et au final, en fait, il y a beaucoup de gens qui étaient tellement tués qu'on a prêté, mais en fait, il y a un moment, ils ne voulaient pas prendre le risque. Tu vois. Donc, ils continuent à faire des recherches, parce qu'ils ne voulaient pas être mis face au mur, c'était en 6 mois pour y fixer.
Ça, c'est des questions qui m'intéressent en termes de management. Comment est-ce que cette personne-là, tu peux la cadrer? Donc, est-ce que tu pourrais avoir un objectif en mode, tu dois sortir un nouveau produit tous les mois? Ou est-ce que si tu fais ça, au contraire, tu prends le risque que du coup, il n'ait pas trouvé des trucs bien, mais il lance un truc un peu
nul? En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que j'ai fait cette erreur, parce que moi, justement, je me suis dit, on va éviter de leur donner un outil d'output un par mois ou par mois, parce que j'avais peur que du coup, les gens se concentrent juste sur lancer les produits et pas le résultat final, parce que tu vois, c'est un produit qui fonctionne. Mais en fait, je pense qu'on aurait dû avoir cet output, parce que ça force quand même ça, en fait. Ça évite de délier, enfin, pour pousser constamment.
Le problème, c'est que tu as envie d'évaluer les gens sur la output, tu vois, le résultat final, mais comme ça prend trop de temps à mesurer. Il faut, et parfois ça a du sens de les mesurer sur l'input en fait d'origine, tu vois. Enfin, pour moi, tu vois, sur YouTube, ce serait la différence entre évaluer quelqu'un sur le nombre de vidéos qu'il a produit versus le nombre de vues. Évidemment, fondamentalement, tu veux le nombre de vues ou le chiffre d'affaires que ça génère, mais en fait, comme le temps pour le générer est long, tu as personne qui te dit ouais, non, écoute, je publie rien, mais t'inquiète pas, la prochaine vidéo elle va être trop bien, elle va tout exploser. Et il y a ce côté un peu dangereux, alors qu'en fait, tu dis non, en fait, le but c'est de vraiment publier une vidéo toutes les semaines. Et c'est probablement comme ça finalement que tu maximises ton nombre de vues. Enfin, même en fait, pour les gens en dehors de la question du management qui veulent publier du contenu, moi je vois trop de gens qui sont en mode ouais, il faut que je fasse la vidéo parfaite, qui passent 3 mois à faire la vidéo parfaite. Et finalement, le gars qui poste une fois par jour pendant 30 jours les a dépassés avec du contenu 10 fois moins bien. Quoi.
Et nous, le cycle est encore plus long en fait, parce que tu peux, au moment où tu décides de placer un produit qui est lancé, ça peut être entre 6 et 9 mois. Ouais. Et même pour un nouveau recrutement, c'est compliqué parce que comment tu sais enfin, tu peux... Donc il faut pouvoir juger un peu jusque dans sur les inputs. Et moi, j'ai pas assez fait ça. Quoi.
Ouais.
Et donc, il y en a une personne, une fois, elle a rejoint. Et je crois que son premier produit, c'est lancé genre 16 mois après qu'elle a rejoint.
Ouais.
Donc à un moment, ça ne fonctionne pas bien.
Et dans ce cas-là, comment est-ce que tu structures ceci, Aldala? Moi, parfois, j'ai l'impression que, tu vois, il y a une personne que je suis obligé de recadrer. Et je me dis, si j'avais été plus proche du projet, j'aurais pu le recadrer il y a 3 mois. Tu vois, en fait, je pense qu'au bout d'un mois, c'était clair qu'il y avait un problème. Mais en fait, j'étais pas assez carré, je pense, sur les métriques, tu vois, de dire comment est-ce que j'identifie chaque semaine s'il y a eu du progrès ou non. Parce que tu vois, sur un truc de lancement de produit, comment est-ce que tu identifies vraiment où est-ce que tu en es dans le process et si ça a avancé ou non. Ça, je pense que c'est un point sur lequel moi, j'ai pas mal buté, en fait. De savoir à quel point est-ce que moi, je dois être impliqué dans le truc, parce que le but, évidemment, c'est de le déléguer, versus donner trop de liberté à la personne, mais elle va commencer parfois à prendre trop de temps ou se coincer ou procrastiner ou justement pas avoir le courage de lancer le truc. Et du coup, forcément, bah, c'est plus facile de délayer le
lancement. Pour nos produits, moi, la solution que j'ai trouvée, c'est de moi être le moteur, donc c'est moi-même qui initie cette partie. Mais aussi, justement, la dernière partie à déléguer, c'est celle-là.
Ouais.
Donc, c'est vraiment en fait, c'est la génération de revenus. Pour toi, c'est la création de contenu.
Ouais.
Il y a une partie où ça a du sens de le garder. Et après, second aspect, et c'est très con qu'on en parle, mais c'est juste la comptabilité. C'est chaque semaine, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Et tu peux assez facilement, du coup, voir.
Et ça, tu le fais sur un appel?
C'est sur un appel, et tu vas avoir un agenda aussi, même sans appel. Tu peux voir, même, tu fais presque par jour. En fait. Tu peux voir si la personne, quand tu demandes qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui te bloque, elle te répond. Si tu la laisses toute seule pendant 3 mois, c'est là que tu prends le risque un peu de, au bout de 3 mois, se rendre compte qu'elle hésitait. Et aussi, c'est un truc que j'ai appris, c'est que les gens ne vont pas venir vers toi en disant je galère ou je sais pas quoi faire. Toi. Là, tu peux leur dire 1000 fois, si tu as une question, si tu galères, viens vers moi. En fait, ils n'ont jamais osé.
Mais en fait, tu fais, vas-y, c'est la merde, appelle-moi maintenant. Tu les appelles et en fait, tout d'un coup, ils sont open. Tu vois.
C'est ça.
Et tu avais l'impression de dire, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il ne communique pas et tout. En fait, toi, tu vas vraiment le challenger. Et je pense qu'il y a cet enjeu de dire, tu veux donner maximum de liberté aux gens pour qu'ils puissent faire les choses, mais il faut que tu comprennes quels sont les bons signaux d'alarme et surtout la fréquence, le feedback loop. Et moi, je pense que parfois, le feedback loop chez nous, il est trop long parce qu'on fait des plans de 90 jours. Et donc, tu vois, au bout de 12 semaines, c'est genre, le projet, il est bloqué. Tu vois.
Et maintenant, nouvelle recrue, maintenant, ce qu'on fait, ce qui peut paraître un peu extrême, mais on se tient bien, c'est toujours me dire qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire demain, qu'est-ce que tu as fait.
Et tu le fais sur quel format?
Sur Slack, tu t'envoies sur Slack comme ça, j'ai fait ça aujourd'hui.
C'est marrant, je viens de commencer ça avec l'équipe il y a 2 jours.
Okay. En fait, c'est assez, on se rend compte, en fait, on revient à des trucs un peu de base.
Des trucs de base. Et vraiment, parce que j'étais au téléphone mardi avec le gars qui est chef des opérations, tu vois, chez nous. J'étais en mode, mec, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de réinventer la roue, le truc le plus simple au monde du management, tu vois. De demander aux gens ce qu'ils ont fait aujourd'hui à la fin de la journée. Enfin, c'était absurde de dire, mais on est en train de parler d'un truc, mais ce truc-là, enfin, toutes les entreprises au monde le font. Mais
qu'est-ce qui te force nous bloquer? Moi, ce que je pense qui nous bloquait, c'est un peu le sens, on nous donne l'autonomie, la liberté, t'as pas envie de cliquer, tu vois.
Exactement.
Mais en fait, c'est du. Enfin, c'est. La personne, si elle sait déjà ce qu'elle a fait, de toute façon, ça lui prend 30 secondes à écrire.
Et si elle ne sait pas, c'est qu'elle a la merde.
Et surtout, si tu te présentes comme ça, tu dis en gros, ça permet d'être au carré. Moi, je sais ce que tu fais.
Ouais.
Je pense que c'est, enfin, c'est obvious, quoi.
Mais c'est obvious, mais putain, 5 ans pour y arriver, quoi.
C'est pareil. En fait, exactement pareil. donc, il y a ça vraiment stressé sur les bonnes parties du business. Et il y a aussi beaucoup à recrutement. En fait, en recrutement, c'est assez impressionnant parce que maintenant, je pense qu'on a recruté plus de 100 personnes l'un dans l'autre. Maintenant, on est équipe de peut-être 30 environ. Donc, ça montre qu'il y a quand même pas mal de turnover. Et déjà, la première chose du recrutement, c'est recruter que quand c'est absolument nécessaire. Et recruter que dans des rôles qui justement générer des revenus ou gèrent directement les opérations. Nous, je pense qu'on va facilement écouter un peu les trucs annexes.
Ouais.
En anticipant la gauche, on va dire de l'année prochaine, on va faire quoi 3. On va recruter ça, excusez-moi, parce que Pinson Purple. Et après, tu ne veux pas virer les gens parce que toi, tu as mal calculé ta gauche, tu es un peu coincé. Et surtout, tu rentres un peu dans une dynamique au plus haut. Actuellement, on est genre 50-55, mais c'est beaucoup de Chinois dans l'équipe Western que moi, je gère directement. Au plus haut, maintenant, je t'en ai peut-être 30 maintenant. Au plus haut, t'es 50. Et en fait, 50, t'es dans un cycle continu de product management. T'as toujours 2-3 personnes qui viennent recruter, donc ils sont pas décédés, donc faut les suivre.
Ouais.
T'as 2-3 personnes qui performent sont mauvaises. T'en as un, son grand-père est décédé récemment et un qui vient d'en out. En fait, t'as toujours des problèmes à gérer. Et à moins que t'aies vraiment une très bonne capacité à compartimentaliser, justement, ça va un peu t'infecter dans ta journée. T'auras beaucoup moins d'attention à justement attribuer à cette partie.
Et t'as quoi comme structure, c'est-à-dire les gens ils vont directement te parler ou est-ce que tu as un numéro 2 qui gère les équipes?
Non, moi en fait j'ai et ça c'est un truc, c'est après un moment j'avais 8 direct reports, non, c'est ingérable, 8 personnes qui font du boulot différent. En fait, tu te rends compte quand tu leur parles en review, tu as un peu du mal à te souvenir, enfin cette personne elle a fait ça.
Et en fait tu leur parles et tu es en train de leur parler, en fait tu t'aperçois qu'il y a 3 mois tu leur avais dit la même chose et que le projet en était au même moment et que tu t'aperçois pas de la différence, tu n'arrives pas à suivre le fil de ce projet en fait.
C'est ça. Donc, je pense que ce que tu sais, c'est avoir un feedback loop plus proche et avoir moins de gens à gérer aussi. Mais du coup, non, j'ai 4-5 reports qui ont même plus leur report.
Ok. Ouais, donc tu restes la personne qui pilote les trains, quoi. Parce que moi, j'essaie d'en avoir un seul, en fait.
Bah, je pense que c'est bien si t'arrives à ça, c'est très bien. Surtout toi, encore une fois, c'est encore une histoire parce que tu payes la partie création de contenu. Ouais. N'est-ce pas, faut déjà tuer. Recrutement aussi, recrutement, on avait une approche un peu, j'en ai je crois déjà un peu parlé. On approche, on recrutait beaucoup un peu tout ce qui est Nisfeed, c'est donc des gens qui est atypique, on va dire. Ouais. Atypique, et en fait, en regardant un peu, t'as des fois des bonnes surprises, c'est super, toi, c'est cool, c'est gratifiant.
Ouais.
Mais on a tellement d'histoires de tarés. Et même maintenant, tu vois, maintenant que je regarde Maria, il y a un mec qui a réussi à se présenter à l'entretien. Il était high, clairement. Il avait une belle fumée. Ouais. Ça se voyait. Et moi, mon réflexe, c'était pas, bon, bah, c'est mort, tu vois.
Quel esprit créatif.
J'étais, après, ce qui est plus Blackwood, c'est pas si mal que ça, tu vois.
Ouais, après. Ouais,
peut-être qu'il a un peu stressé. J'étais, ouais.
Ok.
Limite, enfin, bon signe, tu vois.
Bon signe.
Et aussi, un autre truc aussi que j'ai appris, c'est que je me dis, en fait, si quelqu'un est difficilement employable dans un vrai boulot,
ouais.
En fait, c'est parfait pour lui. Il va nous rejoindre et il va être super motivé.
Ouais.
Et il va faire un super taf parce que, mais en fait, non, les gens ne raisonnent pas comme ça, tu vois.
Ouais, ouais, ouais.
S'ils sont pas employables pour notre boulot, généralement, même chez toi, ça va pas fonctionner. Forcément. Et un autre truc qu'il a fait.
Je pense que les gens sont plus rationnels qu'ils ne le sont.
C'est
quoi.
Ça.
Tu mets le genre de situation, tu dis, bah écoute, là, il a un bonus, il c'est réussit, donc forcément, il va réussir, ouais. C'est une opportunité pour lui. Et ouais, tu peux quand même avoir des gens qui vont être assis là et regarder le mur et dire, ah, qu'est-ce qui m'arrive et tout. Et je pense même pas, tu vois, par mauvaise volonté, il y a juste des gens qui n'y arrivent pas et c'est pas toi qui va
ouais, ça,
pouvoir faire la psychiatrie de
toute façon, remettre avec les bonus, l'air, c'est quand les mecs performent bien que tu leur donnes un bonus, c'est un peu mieux, c'est encore mieux. Quand les mecs performent mal et que tu leur donnes un bonus, ça sert à rien. Ça, c'est pas. Donc j'ai remarqué ça en fait. Soit ça améliore un peu la personne qui est déjà bien. Il y a la personne qui ne performe pas et que tu penses motivé. Ouais. Jamais eu de succès. Parce que j'essaie plusieurs fois de mettre un bonus en me disant ça a motivé. Mais donc, le gars qui se présente, il a fumé. Et puis, je ne sais pas, après 3 mois plus tard, comme ça.
Donc, tu le recrutes.
Je le recrute. Et il nous annonce sur Slack, on a un channel pour dire quand tu es en congé ouais. ou que tu es malade, je vais être malade pour la semaine. Lundi, je vais être malade pour la semaine. En fait, tu as plus, c'est un peu bizarre. Enfin, comment tu sais que tu vas être malade pour la semaine? On ne sait pas. Et son manager, qui était un peu, je ne sais pas si c'était en pote, mais. Il l'a sur Steam en fait. Et il voit le gars jouer au nouveau jeu. Son jeu préféré venait de sortir cette semaine. Et il voit faire 80 heures sur le jeu dans la semaine. Tu vois. Et même après ça, mon mec nous a objectivement menti en disant qu'il était. En plus, il aurait pu poser des congés. Tu vois, c'est honnête. Tu poses des congés, il n'y a pas de soucis. Toi. Non, tu déclares un congé maladie. À l'avance, tu passes ta semaine à jouer à ton jeu vidéo. Même après ça, on était. Ouais, mais en même temps. En fait, je ne sais pas ce que je voulais dire. Mais maintenant, je suis mal à me ramener à rappeler à quel moment je me suis dit. En fait, quand t'es dedans. Toi, la personne, c'est un être humain. Toi, ouais. Tu dis, tu trouves des raisons, peut-être que ça va pas. En plus, ah oui, cette pote, il est cassé avec sa copine. Mais en fait, il y a un moment, tu dis, en fait, c'est pas ton problème, toi. Il y a un moment, tu peux séparer les choses.
Ouais.
S'il est nerveux et qu'il a besoin de fumer, la weed pour entretien, c'est pas ton problème. C'est à toi de dire non, c'est pas ce qu'on veut dans la boîte. Il y a un moment, il faut mettre les. So, ouais, faut. Et donc, maintenant, on a une approche beaucoup plus directe, vraiment.
T'as joué tout le monde sur Steam maintenant.
C'est ça, comme ça, on traque. On les traque. Mais non. Mais ouais, surtout ce qu'on a fait, c'est vraiment côté un peu sur le potentiel, tu vois.
Ouais.
Notamment, moi, je faisais un peu les entretiens à l'inspiration, toi. Tu sais, je sens bien ce gars, il y a un truc. Et en plus, ce qui se passe, c'est que dès que tu commences à avoir un appareil positif sur la personne, tu vas trouver plein de trucs en positif et à l'inverse, en négatif. Tu vois, dès qu'il y a une personne que tu la sens pas, tu te dis, ouais, en plus, il y a ça. Mais ça sert pas à grand chose. Maintenant, c'est vraiment, notamment l'entretien, lui donner un test job, un truc représentatif de ce qu'il a à faire et voir comment la personne performe et avoir ça comme point central en direct. Et nous dire, explique ton raisonnement pendant que tu fais. Et t'as plein de trucs, notamment, on a plein de boulot où vous pouvez être bon sur spreadsheet, tu vois directement.
Ouais.
Est-ce que la personne joue sur spreadsheet ou pas? Est-ce que la personne, tu lui donnes de la data, directement voir, OK, ça c'est une anomalie. Enfin, t'as plein de trucs, tu peux tester très facilement. Plutôt que juste concentrer un peu sur le potentiel de la personne. Et donc, ça, c'est la partie vraiment hard skills, on essaie d'en mesurer, on essaie de tester. Parce que c'est marrant, parce que, en fait, tu trouves pas si facilement de tests de QI pour recruter. Parce que c'est interdit légalement aux US.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, tu as plein de tests un peu alternatifs, tu vois. Et ça aussi, mine de rien, en filtre au début, c'est bien, toi. Parce qu'en fait, si la personne, elle est vraiment limitée, effectivement, il y a des boulots qui ne sont pas accessibles.
Ça va peut-être être un business, d'ailleurs, les tests. Il y en a
plein. C'est un gros business, ça.
Il y en a plein, mais en fait, j'ai l'impression qu'il n'y en a aucun qui est marketé vraiment. Tu vois, j'ai toujours l'impression que j'arrive sur le site, c'est un truc méga corporate. C'est vendu à Ford et à Toyota.
C'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait, aux US, les tests de QI ont été interdits parce qu'on sait comme discriminant. Et en fait, il faut que ton test collectif, il soit lié aux demandes du boulot précisément. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est trigger point, en fait. C'est du coup, il faut que tu aies un test qui soit vraiment par rapport à telle position chez Toyota. Tu vois.
Mais du coup, pour les entrepreneurs du web, tu vois, est-ce que tu pourrais pas avoir un test? Moi, je me dis,
il y a un site qui est assez cher, qui est Test Gorilla, okay. Qui est pas. Mais ils ont que 4 tests gratuits il y a un tellement de problèmes solving qui est pas. Il y a un autre truc aussi que je me suis rendu compte avec ce test, c'est que on a besoin du revenu universel, quoi. Parce que je t'ai mis le screenshot, et on mettra peut-être en sur la vidéo. On est genre 1200 candidats. Et justement, c'est un test collectif un peu de base. Et genre, je crois, à la fin, dans le top 20, ce qu'on m'a fait faire, en gros, une dizaine de nos employés à nous, on les a fait faire le test. Et dans le top 20, on avait 10 de chez nous, 10 autres. Donc, t'as genre 1100. Donc, le niveau moyen, en fait, des gens dans le monde, intellectuellement, tu te dis, putain, ça bloque un peu, toi. Et qu'il y a plein de boulots qui sont juste pas accessibles et qu'il va falloir trouver une solution. Il y a un truc qui colle pas.
Il y a un truc, il y a un cut-off de QI pour pouvoir participer à l'armée américaine.
Ok.
De genre, tu vois, si t'as moins de 89 de QI, je sais pas exactement quel chiffre, tu peux pas participer à l'armée américaine parce que littéralement, il y a aucun job. On peut pas te demander de nettoyer des toilettes sans que tu sois en danger, tu vois, en situation de crise, etc. Il y a un cut-off. Et en fait, il y a genre 15-20% de la population qui sont en dessous de ce cut-off, quoi. Où l'armée se dit, cette personne, on peut l'utiliser nulle part. Elle peut pas tenir un fusil, on peut pas lui demander de faire quoi que ce soit.
Et c'est là où les questions de mérite, elles se butent un peu. Mérite, qu'est-ce que tu veux faire et là, c'était en plus, c'est assez violent ce test parce qu'en fait, il faut que tu allumes ta webcam pour voir que la personne ne triche pas, toi.
Ouais.
Et donc, tu vois des gens qui, pendant 9 minutes, galèrent sur la première question. Un truc qui, moi, me paraît quand même pas très, très compliqué. Et tu dis, effectivement, après, comment dans la vie de tous les jours, ils font pour. Tu sais, il y a un moment, c'est difficile, quoi.
Ouais.
Donc, ça, c'est un autre truc que j'ai appris, c'est qu'en fait, notamment quand nous, on a ouvert le recrutement et je pense aussi, on va pas se mentir, on a un peu target l'Inde. Et donc, en Inde, je pense que tu as un gros taux de gens qui sont un peu plus en galère à ce moment-là. Tu vois vraiment la différence, que pour le coup c'est assez violent et je pense qu'il y a plein de questions, mais on a fait un peu recrutement Europe de l'Ouest, Europe de l'Est et Inde, et tu vois quand même les gaps, quoi. Et par contre, Europe de l'Est est un peu au-dessus de l'Europe de l'Ouest en termes de résultats, et on a fait Philippines aussi, c'était pas trop mal, c'était un peu en plein de l'Europe de l'Est. Mais donc j'en reviens à mon truc, c'est vraiment essayer d'écouter les gens autres, les gens soient tout objectifs. Et après, la seule partie un peu subjective que j'ai l'impression qu'il faut juger, en fait, c'est qu'on réfléchit souvent à, ouais, il faut que la culture match et autres. Mais ce truc qui me semble vraiment important, c'est un peu l'attitude des gens vis-à-vis des problèmes. Tu vois. Est-ce qu'en gros, ils sont énergisés par les problèmes? Est-ce qu'au contraire, dès qu'il y a le moindre problème, ils vont abandonner? Ils vont venir se plaindre? Et ça, c'est vraiment ce que tu essaies de juger assez rapidement. Et je pense que c'est le seul truc culturel qui compte dans une boîte.
De marquer, c'est une question, la question de killer.
Ah, ça, c'est ensuite un autre truc, une grande machine de voler recrutement. Et à partir de management aussi, j'ai quelques réalisations. Et une question qui, honnêtement, justement, est imbattable. C'est en gros, pour savoir si tu veux garder une personne, même si tu veux lui donner un bonus ou autre, en gros, si cette personne demain te t'annonçait qu'elle partait, comment tu réagirais? Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu dis aussi que tu t'essaierais de la garder? Et ça, c'est assez fou, même après, tu as des fois, tu parles à un manager de quelqu'un, et tu expliques un peu cette personne, ouais, cette personne, elle dit, ok, mais du coup, est-ce que tu penses qu'on devrait faire une performance plan? Est-ce qu'on devrait s'en séparer? Oh non, on peut garder, il y a comme des qualités. Et après, tu lui demandes, ok, si demain cette personne partait, qu'est-ce que tu me dirais? Elle me dit, ouais, comment tu sortirais? Elle me dit, ouais, je serais soulagé, quoi. Et ben, bah, si effectivement, il y a un truc qui coince, quoi. Et généralement, vous pouvez réfléchir dans le business, ou même par rapport à des partenaires ou autres, c'est une question qui fonctionne très bien, quoi.
Moi, j'ai souvent eu un élément sur ce truc de il y a des qualités, etc. En fait, si tu as un job qui n'est pas forcément bien défini, et la personne doit faire plusieurs postes différents, et elle a des postes qui sont relativement faciles et des postes qui sont un peu plus durs. Par exemple, elle a des postes, je sais pas, elle doit faire du support client, mais aussi elle doit faire des tâches de marketing, tu vois. Ce que tu vas apercevoir, c'est qu'au bout de quelques mois, la personne a un peu délaissé ses tâches un peu plus dures.
Ouais.
Mais du coup, elle fait quand même une partie de son job. Mais t'es pas en mode, je peux pas virer cette personne, elle a quand même des trucs utiles qu'elle fait. Mais en fait, dans ta réflexion au départ, non, le poste, il y avait ces deux aspects qui étaient importants. Je pense que c'est. Si les gens doivent faire un truc un peu dur, tu peux pas leur donner un truc plus facile parce qu'ils vont que se focus dessus. La personne qui fait le marketing doit faire absolument que le marketing. Et sinon, ça te piège. Et en fait, tu dis, ouais, mais finalement, il fait quand même des trucs bien. En fait, il fait des trucs bien. Mais sauf qu'il fait que 50% de ce que toi, tu voulais au départ.
Après, c'est un autre signe, je trouve ça quand. Parce que tu sais, quand tu fais une performance review, tu trouves toujours des qualités aux personnes, tu trouves des trucs positifs. Quoi. Et quand justement, tu dois un peu te creuser la tête et trouver des trucs un peu nuls, c'est où tu sais au fond de toi qu'ils sont un peu nuls. Toi. La personne a juste fait les bases du boulot, généralement, c'est un signe aussi. C'est un truc qui est là-bas. Et donc, ça, je pense que cette question, moi, ça éclaire assez rapidement. Parce qu'en fait, ça, moi, ce qui m'a frappé, et je ne sais pas si c'est mon père, mais en fait, se séparer des gens, ça ne devient pas plus facile. Tu vois. Moi, je pensais qu'après un point, c'était le plus dur, et après, ça ira. Mais moi, c'est très, très dur. Et maintenant, même. Et après, avant, je me disais toujours, ça doit venir de moi, tu vois. Et à un moment, c'est moi le premier responsable. Maintenant, je laisse plutôt mes managers me dire. Et finalement, bizarrement, pour eux, c'est plus facile. Je sais pas pourquoi. Mais ouais, c'est un truc. En fait, ouais, on parle du gars qui fumait, qui est joué aux vidéos pendant sa semaine la semaine où t'es malade. Pareil, parce qu'en fait, dans le temps que ça a passé, j'ai dû passer des dizaines d'heures à réfléchir. Et aussi, c'est l'autre truc aussi, c'est qu'en fait, tu veux pas trop changer les gens, tu vois. En fait, s'ils changent, c'est un bonus. Mais faut pas partir là-dessus parce que. les chances en réalité, tu te rends compte que t'as 5-10% de chances que vraiment il y a un retour dans une situation et que l'agence, la personne se rend compte, putain, effectivement, pour une semaine de congé maladie, jeu vidéo, c'est pas très réglo. C'est assez top, quoi. Et le troisième truc, le dernier truc, et après on a une section qui aussi, on rentre dans le truc, tu sais, de la quantity un peu couillon, mais training, en fait. Ou moi, et là, je pense que c'était plus une erreur de ma part qui est un peu ensuite propagée sur ma boîte. J'étais encore une fois dans l'idée, vas-y, je te laisse tout seul, si t'as un problème, tu me dis. Et on en discute, et ça des questions, n'hésite pas. Et j'insistais beaucoup dessus. Je me disais, si j'insiste 15 fois, c'est sûr, ils vont me faire. Ouais. Mais en fait, non, il y a très peu de gens qui, vont venir te poser la question. Et même, il y a très peu de gens qui, par eux-mêmes, vont se renseigner. Ils attendent que le training vienne. Tu vois. Et tu peux dire, ouais, non, mais moi, je veux des personnes vraiment totalement autonomes. Mais c'est 1% de la population. Avec la plupart de la population, attend que tu le rebondes. Et donc, et de façon, pour train, foncière. Ouais. Et c'est assez bon parce qu'on a, il s'est passé récemment qu'une personne qui s'est pas formée. Et en 2 semaines, il y a eu un chiffre quasiment complet. Où on lui a dit, bah, voilà, pour faire ça, fais comme ça. Tu t'enregistres. En fait, tu fais n'importe quoi, quelle tâche. Tu t'enregistres sur Loom en expliquant ce que tu fais. Ouais, moi, je l'ai fait. Maintenant, toi, fais-le. Sur un autre produit, par exemple. Elle va le renvoyer. Et tu fais ça 2-3 fois. Et en fait, les gens, ils apprennent. Et ça peut paraître couillon, mais moi, j'avais pas du tout ce mécanisme de training, quoi. Partie du principe, bah, soit la personne va être débrouillard, soit c'est mort. Ce qui, je pense, du coup, a créé beaucoup d'échecs là où que j'aurais pu éviter en tirer.
Moi, je voulais savoir comment s'étaient passées tes vacances, mais finalement, l'expérience, c'était juste, t'as réfléchi à tes leçons de management, quoi.
C'est ça, et j'ai terminé.
T'es venu avec une masterclass.
Et un peu de façon, j'étais con, quoi. Un peu ça, ouais.
Parle-nous de Dogecoin, du coup.
Ah bah, tu vois le screenshot, je pense qu'on mettra sur YouTube, on peut peut-être décrire un peu ce qu'il y a dessus. Donc on voit, effectivement, c'est moi.
Il y a un achat à 75 euros.
C'est 75 euros de Dogecoin ont été achetés le 27 février 2014.
Ouais.
D'accord. Et en fait, le lendemain où j'ai acheté, vraiment le lendemain, je me rappelle, mes 75 euros, ils valaient 5 euros de Dogecoin. Donc investisseur, je me dis
pas, pourquoi est-ce que tu dis que tu allais acheter du Dogecoin? Qu'est-ce qui t'a créé cette impulsion?
Ouais, moi, c'est longtemps, parce qu'encore une fois, c'est il y a 10 ans. C'est littéralement il y a plus de 10 ans.
Ouais.
Donc j'étais encore étudiant en Angleterre. Et je voulais me dire, je vais faire de l'argent comme ça, je me disais investissement, je vais devoir passer quelque part, je ne sais plus trop.
Et aussi,
j'avais déjà aussi, mais ça, on en parlera vraiment pas. J'ai aussi déjà un wallet avec quelques bitcoins, donc j'étais déjà un peu familier, tu vois. Mais ça, c'est encore un truc autre, catastrophique, des bitcoins en 2013, auquel je me souviens plus du montant et je ne veux pas me rappeler, tu vois. Mais bon, on revient à mon Dogecoin, où là, par contre, je savais que j'avais mon wallet sur mon ordi à l'époque, tu vois. En fait, on revient à ce qui s'est passé, c'est en 2023, c'était abouti, en 2022, je sais plus, 2021, le temps passe vite. C'est abruti d'Elon Musk qui commence à parler de Dogecoin.
Ouais.
Donc, ce truc qui était mort pendant 10 ans, pendant 8 ans, il ne s'est rien passé. Okay. Il valait zéro. D'un coup, il explose. Ouais. Et je vois mes 75 euros devenir genre 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000 euros. Et là, je me dis, putain, faut que je récupère, là, ça vaut le coup. En plus, l'histoire est belle, tu vois. Et donc, je demande à ma mère de m'envoyer mon ordi que par miracle, elle avait gardé de 2014.
Okay.
Elle m'envoie l'ordi. Il ne fonctionne pas forcément, 2014. Je dois l'amener à la réparer. Je trouve mon wallet et je dis, c'est bon. Mon wallet, je clique, ça donne un mot de passe. Un mot de passe que moi, j'ai mis, tu vois. Parce que la phrase, la seed phrase, c'est parti, je m'en souviens plus. Mais là, j'ai le wallet. Et tout ce que ça demande, c'est mon mot de passe. Tu vois. Impossible de se souvenir mon mot de passe. Et là, j'ai tout tenté. Je me suis pensé à tous les mots de passe que potentiellement on pouvait mettre. J'ai regardé aussi tous les, tu sais, où j'aurais pu m'envoyer un message à moi-même pour le futur. Tu vois. Ouais. À l'époque, je trouve pas. J'apprends à moitié à coder en Python. Tu as un script, en fait, tu peux tenter plein de variations de mots de passe.
Ouais.
Donc, tu t'essaies d'une brute force, parce qu'en fait, il n'y a pas de limite sur le nombre de mots de passe que tu peux soumettre. Donc, j'essaie de brute force ce truc. J'ai son ordi tourné pendant 2 semaines non-stop. Mec, j'ai booké un hypnothérapeute. un hypnothérapeute.
Tu sais, je m'attendais à ce que tu dises. J'ai booké un mec genre CSI qui m'a décrypté, mais c'est mille fois mieux.
J'ai booké un hypnotiseur parce que je me suis dit, ça trouve, en fait, c'est dans quelque part dans mon cerveau. Il va m'hypnotiser, ça va revenir en 2014 et ça va revenir. Toi.
Oh,
j'ai perdu 300 euros. On va se gâcher, c'était inutile. Et donc j'ai dû admettre défaite, évidemment, impossible de retrouver. Et maintenant, ça va encore 20 000 euros. Donc là, ouais, si vous avez un moyen, contactez-moi. On fait 50-50, ou récupérer 10 000, je récupère 10 000.
Et c'est monté jusqu'à combien? Parce que là, c'est monté sur ce screenshot à 75, du coup.
Non, ça, c'est quand j'ai acheté, c'est la date d'achat.
Ouais, ok.
Donc là, j'ai acheté 75 euros de Bitcoin et de Dogecoin en 2014. Et après, ensuite, quand Elon Musk a fait ses tweets, c'est monté à 60, peut-être même 80 000 euros, et 75 euros. Et maintenant, je crois que c'est redescendu, mais c'est assez haut encore, c'est encore 20 000 euros, quoi.
Incroyable.
Ouais.
On délivre sur les anecdotes. C'est quoi, Paul? Je suis très fier aujourd'hui parce que je pense que pour la première fois, mon putain d'appel à l'action, de s'abonner sur YouTube et de laisser un commentaire, etc.
Il est valide.
Enfin, il va être valide. Ça fait 4 épisodes que je le fais, que je passe pour un bouffon total, qui ne sait même pas poster une vidéo. Le mec qui fait des vidéos depuis 10 ans et qui ne sait même pas poster une vidéo, qui poste son podcast qu'en audio. Voilà, je vous regarde dans la caméra. Aujourd'hui, c'est bon. Abonnez-vous à la chaîne YouTube du Trilliard. Pour les 1000 premiers abonnés, bah, vous voyez exactement quel numéro d'abonné vous êtes. Vous pouvez le mettre dans les commentaires, c'est marrant. Vous saurez que vous étiez là dès le départ. Merci à vous, c'est la fin du podcast. À la semaine prochaine.